Bienvenue sur la page Bible Espoir. Nous sommes heureux de vous y accueillir et nous vous souhaitons une bonne écoute.
J'ai eu la pensée d'orienter notre méditation sur un sujet particulier qui est quotidien dans notre vie, hein, vous allez le découvrir, c'est le rendez-vous. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Le rendez-vous. Alors, je vais vous indiquer un texte dans l'Évangile, c'est très simple. Un texte dans l'Évangile de Luc, si vous voulez bien me suivre. Au chapitre 19... Verset 41, parole de Jésus. Voilà. Il y a les commentaires, quelquefois, des uns et des autres, mais là, ce sont véritablement les paroles de Jésus. Alors, avez-vous trouvé Luc, chapitre 19, verset 41. « Comme Jésus approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit « Si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux, il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants, au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi, pierre sur pierre, parce que, et ça c'est l'élément principal, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. » Il s'agit d'un rendez-vous qui précède, eh bien, la crucifixion. Et il est dans cette ville chéri par tous les Juifs, tous les Israélites, la ville de Jérusalem. Et vous savez qu'Israël, Jérusalem en particulier, a été présentée dans l'Ancien Testament comme la fiancée. D'accord ? Alors, messieurs, mesdames qui sommes, qui étaient demoiselles auparavant, est-ce que vous vous souvenez du premier rendez-vous que vous avez eu avec celui qui est aujourd'hui votre mari? Moi personnellement, je m'en souviens, j'allais attendre ma future épouse dans un coin de rue lorsqu'elle sortait du lycée. Ben oui, hein, voilà. Et c'était un moment merveilleux. C'est toujours un moment merveilleux. N'allez pas tirer des déductions. Alors, on a eu plusieurs rendez-vous, comme cela, un petit peu cachette-cachette. Puis, à un moment donné, on s'est dit, on va plus donner rendez-vous. On va se marier. Alors, on s'est retrouvé devant monsieur le maire. Et mon épouse est venue, donc, habiter chez moi et moi chez elle. Comme il se doit. En tout bien, tout honneur. Et c'est vrai que ces rendez-vous, ça marque la vie. Et ce sont des bons moments. C'était au printemps, les oiseaux chantaient, il y avait des fleurs partout, et la ville dans laquelle nous habitions, c'était la plus belle ville du monde. Et c'est vrai que quand Jésus est venu, et lui connaissait la mission, le rendez-vous, eh bien, je crois que il a pleuré, et ce n'était pas des pleurs de joie, c'était des pleurs devant un échec. Parce que les blessures à l'amour sont les plus terribles. Et c'est vrai qu'à travers toute l'histoire biblique, toute l'histoire de l'Ancien Testament, c'est une histoire de cache-cache. Ça commençait au Jardin d'Éden avec Dieu et Adam et Ève. Et après, ça s'est perpétué. Il y avait des périodes, ça allait mieux, mais des périodes, c'était catastrophique. Et Dieu donnait en permanence un rendez-vous. Et des rendez-vous ratés, il y en a eu beaucoup, ça sera le titre de notre méditation, rendez-vous ratés, rendez-vous manqués. Et Dans tout cela, eh bien, moi je relève quand même ce passage quand il est dit « Tu n'as pas connu le jour, le temps où tu as été visité ». Et c'est vrai. Et ça fait partie de l'histoire, hein, il y a 2000 ans. Ça fait partie de notre histoire aujourd'hui, mais aujourd'hui particulièrement, ça fait partie d'un rendez-vous que Dieu donne et il redonne à tous, mais peut-être à certains. Et c'est ce qui fait finalement que j'ai eu à cœur de vous parler de ce rendez-vous. Rendez-vous pour aller plus loin. Rendez-vous pour se réveiller. Rendez-vous pour être guéri. Rendez-vous pour être délivré. Rendez-vous pour pouvoir finalement, eh bien, enfin peut-être, après des combats et des luttes, rentrer dans une autre dimension, une autre intimité avec Dieu que vous voyez peut-être chez les autres, mais vous, pour vous, vous êtes resté en dehors. Alors, je voudrais vous dire qu'il y a deux sortes de positions. Il y a celui, en effet, tout simplement, il y a celui qui fait attendre. Il y a des gens qui ne sont jamais au rendez-vous. On l'a vu ça quelquefois. Et il y a celui qui attend. Et dans la position de Dieu, c'est celui qui attend. Et si vous regardez tout simplement dans la concordance le mot « attendre », puis tout ce qui en décline, hein, tous les synonymes, eh bien vous allez voir que Dieu a de la patience, que Dieu est bon, que c'est pas seulement ce Dieu qui, avec les foudres du ciel, eh bien tombe sur les hommes en disant « voilà, il y a ceci, il y a cela, ça ne va pas, etc. » Jusqu'à notre dernier souffle, il frappera encore à la porte. D'ailleurs, c'est pas pour rien que dans le livre de l'Apocalypse, il est dit « je frappe à la porte, si quelqu'un entend et qu'il m'ouvre, je ferai ma demeure chez lui ». Vous connaissez, hein ? Vous connaissez bien d'ailleurs. Et vous savez que tout cela est surenchéri à travers un beau texte dans Pierre, quand il est dit que Dieu use de patience, il use de patience envers vous, envers nous, parce qu'il veut que tout le monde parvienne à la connaissance de la vérité et soit sauvé. Le but, il est là, le but ultime. C'est pas d'avoir un bon moment émotionnel, quelques frissons, je ne sais, mysticaux, je ne sais quoi, peu importe. Mais d'avoir véritablement, eh bien là, quelque chose qui nous enracine. Et qui nous enracine avec le Seigneur. On s'aperçoit que depuis quelques mois, depuis quelques années, il y a quand même un fléchissement. Un fléchissement compte tenu des événements, compte tenu parfois d'une lassitude parvenue, peut-être d'une érosion dans notre vie, dans notre âme et dans notre détermination. On s'en plaint, on le constate, mais ce n'est pas parce qu'on va secouer les gens que ça va changer quelque chose. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut véritablement ranimer la flamme. Au contact de la parole, c'est pour ça que peut-être que Dieu veut se servir de ces quelques paroles pour nous réveiller et nous ressaisir. Mais il peut faire bien d'autres choses. Alors, c'est intéressant. Déjà dans l'histoire, dans le livre du prophète Ésaïe, dans une période tout à fait particulière de confort et de prospérité du royaume en Israël, parce que c'était ça, hein, le temps d'Ésaïe, Dieu dira, mais Israël, je t'ai appelé, mais tu n'as pas répondu. Seigneur, plus tard. Seigneur, tu vois, je suis occupé. Seigneur, j'ai autre chose à faire. Seigneur, ça ne me dit rien. Hein, y a bien des choses qui nous ne disent rien. Hein. Et pourtant, Dieu vient et il nous parle. Il nous dit. Parce que ce n'est pas notre malheur qu'il veut, c'est notre bonheur, notre épanouissement. Que nous puissions véritablement eh bien, nous épanouir. Oui, j'ai un petit cadeau pour toi. Permettez. Hein. Mais je voudrais te le donner parce que je pense que c'est aujourd'hui que tu en as besoin. Je te dis aujourd'hui parce que demain tu ne sais pas. Tu connais ton histoire, tu connais ton passé, ton présent, mais demain tu ne sais pas. Et peut-être justement ce que je te réserve aujourd'hui, c'est parce que demain ça va être une nécessité, une urgence. Retenez bien ça. Hein. Vous savez, nous avons passé 70 ans dans une société occidentale. Nos grands-pères et nos arrière-grands-pères reviendraient et ils diraient, mais ils n'auraient qu'un mot, ils sont fous de voir l'explosion, la technologie, les progrès, le confort de vivre, etc., etc. Ils seraient ahuris. Hein. Et pourtant, on s'aperçoit que notre monde se déchristianise de plus en plus. C'est quand même assez ennuyeux quand on fait du bien à quelqu'un, eh bien on pense. Et Dieu a toujours été, quelque part, l'éternel des pas. Bon, je dis ça, c'est parce qu'on essaie de le mettre un petit peu à notre compréhension, c'est de l'anthropomorphisme, mais néanmoins, c'est quand même une réalité. Quand vous attendez quelqu'un qui ne vient pas, quelqu'un que vous aimez, naturellement, parce que le contraire, c'est... vous soupirez de soulagement. Mais bon, on a tous des rendez-vous tous les jours, professionnels, dans le domaine familial, dans des obligations aussi. Alors je t'ai appelé, mais tu n'as pas répondu. Car, dira Dieu, il va surenchérir cette première pensée que nous avons dans Ésaïe 65, il dira, « Mais je vous ai, dès le matin, je vous ai envoyé mes prophètes, je vous ai appelé, j'ai parlé, et vous n'avez pas écouté. » Parce que ça, c'est encore une autre... Écouter, c'est une chose. Mais répondre, c'est encore la dimension supérieure. C'est parce que nous avons écouté, que nous avons compris, et que nous avons, finalement, et bien là, répondu. Alors Jésus pleurant sur sa fiancée Jérusalem, la belle Jérusalem, on pourrait dire la belle endormie aussi, parce que là ils sont en plein dans, complètement ils sont. Alors, il pleure sur Jérusalem et c'est un des grands moments de l'histoire des Juifs, faut le dire. Eh oui, juste avant la croix, juste avant le... chavirement, nous pouvons dire, avec la résurrection et l'ascension, il faut qu'ils entendent une dernière fois quelque chose, les habitants de Jérusalem. D'ailleurs, c'est eux-mêmes qui mettront le comble, après avoir entendu et après avoir vu Jésus pleurer, qui vont aller le mettre à la croix. Pas tous, fort heureusement. Mais c'est un des grands moments de l'histoire d'Israël. Et je voudrais vous dire que quand Dieu nous donne un rendez-vous, parce qu'il a mis le Saint-Esprit à l'intérieur de nous-mêmes, on n'a pas besoin d'avoir une prédiction occulte ou je ne sais quelle d'inspiration ténébreuse, parce qu'il y en a qui cherchent ça, pas chez nous, mais en tous les cas, oh bien Seigneur, moi je vois que tu me parles d'une manière très très claire, etc., etc. Eh bien, c'est pas comme ça que ça se passe, mais c'est le Saint-Esprit qui est à l'intérieur qui nous parle. Et quelquefois, dans des ondulations très douces, très approprié à notre tempérament et notre caractère, parce que je ne parle pas pour tout le monde pareil, pour que nous puissions véritablement atteindre ce but de pouvoir écouter et également répondre. Alors, c'est un moment aussi de notre histoire. Nous en avons eu les uns les autres. On a quand même quelques expériences dans la vie spirituelle où il y a eu des moments cruciaux dans notre vie, où Dieu nous a donné un rendez-vous. Alors, on l'honore ou on ne l'honore pas. On y croit ou on n'y croit pas. Et à ce moment-là, vraiment, quand on est conséquent, on est tout bouleversé. Et on attend. Seigneur, tu me l'as dit, mais tu ne l'as pas encore fait. Attends. Attends. Et c'est un rendez-vous capital qui nous est présenté à travers, eh bien là, cette introduction tout simplement. Parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Il y a une traduction moderne qu'on appelle la Bible dynamique, c'est en français naturellement comme dans d'autres langues, mais avec un langage qui est approprié à notre temps. Écoutez, le même verset. Dieu dit, parce que tu n'as pas su reconnaître, donc c'est une question de perspicacité et de discernement, tu n'as pas su reconnaître quoi ? Le moment. C'est une question de temps, de timing. Où Dieu t'a visité. Tu n'avais pas vu qu'il était là, qu'il était peut-être encore plus proche parce que le temps est mûr. Le moment où Dieu t'a visité et il nous est donné le but, nous dit cette traduction, dans le désir de te sauver. Alors le mot sauver peut vouloir dire spirituellement salut, mais il veut peut-être dire guérison, il veut peut-être dire une autre vie. Et les principes de l'évangile de bonheur dans des situations où nous sommes mal pris économiquement, financièrement, familialement, professionnellement parlant, où là il dit voilà, maintenant la porte est ouverte, tu vois, je te l'ai ouverte. Alors c'est dans le désir de te sauver d'une situation soit terrestre, et puis pour l'éternité naturellement. Il y a une question que j'aimerais mettre devant vous. C'est cette question qui tourne autour de deux mots. Le superflu et l'essentiel. Hein, oui. Superflu et essentiel. Je voudrais quand même dire qu'il y a des choses dans notre vie de chrétien, parce qu'on ne fait pas la différence avec les autres, on est des hommes. Il y a des choses qui sont vraiment superflues dans notre vie. Bon. Elles sont là, elles nous rendent service, nous en sommes heureux, mais on pourrait s'en passer, à moins qu'elles deviennent idolâtrie. Alors là, à ce moment-là, on est accro. C'est d'autres choses, c'est plus grave. Et puis, il y a l'essentiel. Moi, j'ai toujours remarqué que quand des jeunes gens et des jeunes filles, et même des plus âgés, ils se convertissent à Jésus, même s'ils ont 80 ans, on l'a vu, hein. Eh bien, je peux vous dire que quand ils ont découvert Jésus, il n'y a plus qu'une chose qui compte, c'est l'essentiel. On l'a vécu, hein. Il n'y avait plus que le Seigneur qui comptait. Il n'y avait plus que les réunions qui comptaient. Il n'y avait plus que la prière, il n'y avait plus que la lecture de la Bible qui comptait. Après, naturellement, il faut revenir dans un équilibre parce que, hein, je pense qu'il faut continuer à vivre. Et Dieu veut que nous continuions à vivre pour être son témoin, mais un témoin crédible. Hein. Pas, vous savez, parti dans toutes sortes de dimensions, hein, c'est ça. Donc c'est le superflu essentiel, c'est l'utile et le secondaire. Est-ce que quelquefois, on ne va pas le faire en fin d'année, hein, c'est pas un bilan comptable, mais quelquefois de dire qu'est-ce qui est utile dans ma vie ? Et qu'est-ce qui est secondaire ? Qu'est-ce qui est essentiel et qu'est-ce qui est superflu ? Ouais. Eh bien, on pourrait peut-être s'apercevoir qu'il y a peut-être du ménage à faire. Des choses auxquelles on est et que l'on pensait parce qu'on a vécu sans elles avant. Et quand elles sont venues dans notre vie, elles ont pris peut-être l'essentiel. Elles ont pris toute la place. Et ça, je pense qu'il faut y penser. Seigneur, donne-moi à faire un peu de nettoyage dans mon cœur, dans ma tête, dans ma vie. Et qu'ainsi, eh bien, tu restes toujours prioritaire. Tu es toujours la prééminence. Quand David dira dans le psaume, si ma mémoire est fidèle, « Seigneur mon Dieu, tu es mon souverain bien. » Qu'est-ce que ça veut dire ? David, hein ? Et lui, il avait certainement des occasions d'avoir du superficiel. Il était roi, vous rendez compte ? Alors, c'est véritablement une affirmation qui nous est donnée et qui confirme l'état du monde de toujours. Ça a toujours été comme ça, dans l'Antiquité, au Moyen-Âge, ou dans les temps modernes, dans les temps actuels, hein, ça a toujours été la même chose. C'est une mentalité et c'est un état d'esprit. Et je crois que, quelquefois, il ne faut pas que notre vie spirituelle s'émousse, parce qu'à ce moment-là, il va y avoir un revirement de situation. C'est-à-dire que des choses que nous considérions comme secondaires vont devenir principales. Mais ça fait le témoignage, c'est le diagnostic que quelque part, notre vie essentielle a perdu finalement eh bien, de son incisivité. Elle n'est plus incisive, voilà, elle n'est plus finalement ce qu'elle devrait être. Vous avez bien connu Moé, je suppose. Il a laissé quelques chantiers ici, à Saint-Nazaire. Hein? Alors, Noé, on va parler de Noé. Et Noé se caractérise, ou se caractérisait par l'insouciance, par la désinvolture et la superficialité, non pas de sa personne, mais de son temps. Qu'est-ce qu'il nous est dit dans Matthieu ? Et c'est intéressant. Alors, moi, je ne veux pas faire de la haute théologie aujourd'hui, hein. C'est toujours très basique avec moi de toute façon, mais il faut que vous puissiez le comprendre, mais vous allez le comprendre. Qu'est-ce qu'il nous y dit pour rappeler les paroles de la Bible ? C'est bien. Il nous est dit dans Matthieu chapitre 24, verset 37, « Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme, c'est-à-dire Jésus-Christ, son avènement. Car dans les jours qui précèdent le déluge, ou qui précédèrent le déluge, les hommes, alors c'est pas défendu et je n'aurais pas choqué personne s'il y a une proximité de mariage au milieu de nous, mais ils mangeaient. Ils buvaient, ils se mariaient, et ils mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et ils ne se doutèrent de rien. Pourquoi ils ne se doutèrent de rien ? C'est parce que finalement, eh bien, les choses secondaires avaient pris le pas. Comme on le trouve dans d'autres textes de la Bible, jusqu'à ce que le déluge vienne, les emporte tous. Il en sera de même le jour du Fils de l'homme. Alors, nos futurs mariés, mariez-vous vite. On ne sait jamais, il peut y avoir des grandes pluies. Mais enfin, bon, la météo, pour l'instant, pendant les quelques jours qui viennent, est à la sécheresse. C'est un petit clin d'œil que je fais. Hein. Vous m'en voudrez pas, mais bon, je suis comme ça. Alors, donc, réfléchissons à quelques applications pertinentes qui interpellent sur nos rendez-vous ratés. Très désagréable, c'est très contrariant, ça c'est sûr. Hein. Avec l'histoire, et notre histoire en particulier. Oui, notre histoire. Alors la première chose, c'est que Dieu nous a donné la liberté de choix. Dans des choses importantes ou dans des choses indifférentes de la vie, hein, tout simplement. Il nous a donné la liberté de conscience. Et quand je parle de liberté de conscience, c'est une liberté de conscience morale. Bien, mal, vérité, erreur. C'est la liberté de dire oui ou de dire non, la liberté de faire ou de ne pas faire, la liberté finalement nous-mêmes nous déterminer. Et vous savez que le mal est insidieux parce que nous vivons, et ça nous en sommes pas tout à fait conscients, mais nous le respirons à plein poumon tous les jours. Oui, je dis bien, nous sommes dans une société libertaire. Faites tout ce que vous avez envie de faire, pas de problème, le bien, le mal... La vérité et l'erreur, ça n'existe pas. Donnez-vous librement, et particulièrement, c'est fixé particulièrement à l'expression du corps. Le corps, c'est quand même le temple du Saint-Esprit pour nous. Maintenant, pour les autres, c'est autre chose. Donc, nous sommes dans une société libertaire, où tout s'est effondré et tout continue à s'effondrer. Et on n'a pas fini d'en voir, mes frères et sœurs. Il va falloir attacher la ceinture, ça c'est clair. Voir peut-être même une liberté... liberticide, c'est-à-dire qui tue la véritable liberté. C'est ce que Jésus nous dit dans Jean chapitre 8 et au verset 44, où il dit ceci, mais celui qui se livre au péché est esclave du péché. Mais il ne sait pas qu'il est esclave, il pense qu'il est libre. Et il juge ceux qui, quelque part, eh bien, n'ont pas la même liberté. Alors tout ça, ce sont des considérations de notre temps, mais il faut en parler, parce que si on reste à plafonner sur les hauteurs théologiques de la Bible, premièrement, il y a le contexte social du temps, il y a toutes sortes de paramètres qui aujourd'hui, eh bien, appartenaient à hier, mais aujourd'hui, c'est un monde nouveau, c'est un monde moderne. Ce n'est pas qu'il est meilleur, hein. Au contraire, il s'empire. Et c'est pour ça qu'il est dit, mais Dieu vous a appelé, pour les chrétiens, Dieu vous a appelé pour la liberté, alors ne vous mettez pas sous un joug étranger pour retourner, finalement, dans l'esclavage. Vous connaissez ça, hein. Ça, c'est Paul qui le dit, hein. Et c'est bien vrai d'ailleurs, parce qu'on peut passer de la vraie liberté pour un chrétien à tout à nouveau la servitude, et on l'a vu. Hein. Moi j'ai connu des frères et des sœurs qui ont bien commencé mais qui ont mal fini, parce qu'il y a eu un essoufflement, ils ont été bénis de Dieu. Mais vraiment Dieu leur a ouvert des portes extraordinaires, nous avons avant les bénédictions qu'ils ont reçues, on disait mais c'est extraordinaire, ah ça il n'y a pas de doute. Et puis à un moment donné, progressivement mais jamais brutalement, ça ne fait pas de bruit, à un moment donné, ils sont retournés d'où ils venaient. Et ça, c'est un drame pour les églises. Ah oui, c'est un drame parce que ils sont passés de la liberté, ils ont été sauvés et ils sont passés à la servitude. Parce que je crois qu'il faut avoir le rendez-vous avec la vérité. Un jour ou l'autre, la nouvelle naissance, c'est pas nous qui la provoquons, c'est Dieu qui nous la donne. Mais est-ce que nous la recevons? La nouvelle naissance, c'est quelque chose d'important. Hein. Et il faut être honnête moralement. Parce que si on commence à faire des approximations, en disant « oui, bon, c'est pas trop grave, alors on va revenir comme dans certaines églises officielles, il y a le véniel, il y a le mortel, vous connaissez toute la suite. Hein. » Alors vous n'en finissez pas avec tout ça. C'est-à-dire vous faites votre petite religion à vous, vous faites votre petite vie soi-disant religieuse, et puis ça ne va pas plus loin. La deuxième chose, c'est vivre en paix, mes frères et sœurs. On a parlé tout à l'heure, finalement, de ces rendez-vous ratés autour, eh bien, de la liberté des choix. Mais là, c'est vivre en paix. Vous savez, il est dit dans la parole, c'est Paul qui le dit d'une manière tout à fait particulière et dans un cas particulier, puisque c'est les couples, il dit « mais vivez en paix autant que cela dépende de vous ». Alors quelquefois, ça ne dépend pas de nous. Mais autant que cela dépende de nous. Et vivre en paix, c'est véritablement s'accoutumer à un état d'agitation et de querelle qui finissent par une guerre meurtrière. Et je peux vous dire qu'il n'y a pas qu'un mort dans cette affaire. Si ce ne sont pas des morts spirituels, ça peut arriver. Par épuisement, par... Et on peut appeler ça, quand les choses durent, de la coexistence, exister avec. Mais exister, c'est pas vivre. Vivre, c'est autre chose, c'est une autre dimension. Coexister dans un climat conflictuel, c'est ce que Job nous exhorte avec une belle parole, sur laquelle j'ai souvent prêché l'évangile. Dans Job, il est dit cette parole tout à fait particulière, dans le chapitre 20, voilà, je l'ai, chapitre 22, écoutez, c'est des belles paroles. « Attache-toi donc à Dieu, on revient à ce que nous avons dit, et tu auras la paix, et tu jouiras ainsi du bonheur, parce que c'est attaché, le bonheur, l'épanouissement est attaché à notre paix. Reçois de sa bouche, la bouche de Dieu, l'instruction, et mets dans ton cœur ses paroles. » Et puis, il est dit en conclusion, « et tu seras rétabli, tu seras remis en place, tu seras remis là où tu as peut-être eu quelques faiblesses, naturellement. » Alors, vivre en paix, c'est important. Et le rendez-vous, c'est le rendez-vous de la conciliation. Il faut s'arranger. C'est de la réconciliation et c'est le pardon. Là, on n'est pas sorti avec ce qui nous arrive, là, un petit peu dans les pays de l'Est. On n'est pas sorti. Parce qu'on s'aperçoit que personne ne veut céder. Alors, on y va, on écrase. Et c'est terrible parce que ce n'est pas les responsables qui sont punis dans cette affaire. Et tout ça pour une question d'orgueil, pour une question de fierté patriotique nationale. Alors il y en a qui se défendent parce qu'ils sont en train de se faire voler leur jardin, si on peut dire un grand jardin, et puis les autres qui y vont parce qu'en disant c'est à nous. Enfin bon, c'est des choses qui sont terribles, mais c'est pourtant le monde. Et puis il y a un troisième point, ce sont les habitudes du bien-être. La dolce vita. Parle italien ? Si, si. Bon. Eh oui, les habitudes du bien-être. Nous sommes, et je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes accoutumés depuis des décennies, de vivre une société, pas tout le monde, je viens le croire, mais que quand même, la classe moyenne, et puis bon, il y a des gens qui ont réussi, et qui ont réussi non pas malhonnêtement, mais honnêtement, mais qui quelque part, eh bien, se sont habitués à la vie facile, à l'argent facile, à « j'ai besoin, je l'ai tout de suite ». Ceci, cela. Faisons attention à nos enfants, parce que là, on va avoir une révolution d'ici quelque temps. Je peux vous dire, parce que la manière dont quelquefois ils se comportent, ils parlent à leurs parents et ils exigent. Quelquefois, ça m'arrive d'aller faire les courses dans les supermarchés, comme tout le monde, et quelquefois, on entend des hurlements. C'est pas les caissières. Mais ceci, dernièrement, là, il y a deux jours, j'entendais une maman qui se battait avec un petit garçon, je crois. Et alors, ils disent rien, mais ils mettent la main, paf, 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 de tous les côtés. Et puis la maman s'en est aperçue, ah bah dis donc, oui, oui, oui. Moi, je pensais qu'il fallait venir une compagnie de CRS. Eh oui, les habitudes du bien-être. Mais est-ce que nous ne serions pas des enfants, nous aussi, par rapport aux convoitises et par rapport à tout ce qui se passe ? Parce que le bien-être, qui devient un souci prioritaire dans notre société, il est préférentiel, notre confort et nos aises. C'est l'indolence coupable, c'est le triomphe de l'ego, car nous disons, et nous avons appris finalement, on a remplacé le Notre Père par « mangeons et buvons, car demain nous mourrons ». Quel Notre Père, hein ? Dis donc, eh oui. N'oublions jamais les buts et les moyens de la vie. Les buts, c'est là-haut. Les moyens de la vie, c'est en bas, d'accord ? Le travail nécessaire, le pain quotidien, enfin bon, même les joies, même les loisirs, même tout ça, c'est des moyens de vivre. Et je n'ai pas contre. Mais tout a balancé dans l'autre sens. Et nous voyons qu'on peut au rendez-vous là. Je vous ai parlé de rendez-vous des choix, parce qu'on sait mal choisir. Je vous ai parlé du rendez-vous, finalement, de choisir de vivre en paix, et de faire ce qui est nécessaire pour cela. Et puis également, eh bien, considération rendez-vous raté, c'est l'histoire de ce paysan, mais ça c'est très connu, dans Luc chapitre 12, vous le retrouverez, quand cet homme, qui certainement d'une manière très honnête a travaillé toute sa vie, il a gagné beaucoup d'argent, certainement même que ses mercenaires, enfin ses ouvriers, avaient aussi été enrichis par tout cela, et puis à un moment donné, il regarde, il dit, mais j'ai plus de place pour mettre ma richesse, mes récoltes et tout ça. Je ne sais pas si c'est votre cas, hein, mais toujours est-il qu'il dit, ben voilà. Puis il arrive à un certain âge, il se dit maintenant, il faut que je profite de la vie, parce que jusqu'ici, je n'ai jamais profité de la vie. Je me suis donné à mon travail corps et âme, et ce serait quand même dommage de passer cette vie sans avoir goûté, finalement, au bénéfice de ce que j'ai gagné. Et le pauvre, il n'avait pas pensé à quelque chose. C'est que dans la nuit même, il s'endort dans l'aise. Il se dit, voilà, demain je ferai ceci, je ferai cela, etc. Et dans la nuit, il y a une voix qui lui parle, une voix qui vient d'en haut, et qui lui dit, mais mon ami, pour qui cela sera-t-il? Puisque cette nuit même, tu vas mourir. Alors j'espère que ça ne va pas vous arriver. Alors à ce moment-là, faites une longue prière, jeûnez pendant la nuit. Seigneur, ne me reprends pas, j'ai encore des choses à faire. J'ai préparé une partie de pêche, une partie de cartes. Enfin bon, je ne veux pas m'étendre, hein, parce que ça va vous donner des idées et j'en serai vraiment contrit. Mais toujours est-il que, voilà, les choses sont ainsi. Parce que ce sont les temps d'abondance qui nous voilent l'indigence de la vie éternelle, de la vie intérieure. Ah oui, nous avons deux sortes de vie. La vie extérieure, on se connaît, on se rencontre. Moi, quand je rencontre mon ami Denis, ben je sais que c'est Denis. Il ne me dit pas « c'est pas moi ». Parce que je l'ai identifié comme il est physiquement. Voilà. Alors, on en est là. Les temps d'abondance qui voient l'indigence de la vie intérieure. Et à ce moment-là, on s'aperçoit, et c'est notre société, si nous voulons bien introspecter les choses discrètement, c'est que les âmes de notre monde, elles crient famine. Alors, il peut bien se contenter peut-être d'une philosophie humaniste. Ils veulent bien se contenter de toutes sortes d'idées qui vont puiser dans toutes sortes un autre monde. Mais par contre, sur le plan spirituel, eh bien, il n'y a plus rien. Ils crient famine. Notre monde est angoissé, il est malheureux. C'est ce que nous constatons, nous, dans l'évangélisation et autour de nous. Et tout cela au milieu des richesses. C'est ça ce qui est terrible. Vous vous rendez compte, on est assis sur... finalement, eh bien là, des choses formidables. Pas pour tout le monde, c'est vrai. Mais néanmoins, le monde n'a jamais été si malheureux d'insatisfaction et de mécontentement et de révolte. Et ils sont assis sur, véritablement, eh bien là, des choses. C'est vrai. L'insatisfaction. Profiteur, consommateur, consommateur, profiteur. Moi, je suis toujours choqué, mais c'est moi. N'allez pas me juger. Quand j'achète une paire de chaussures, j'en achète pas trois à la fois. Parce que j'ai que deux pieds. Enfin, je ne sais pas si vous avez marqué, mais peut-être qu'avec l'évolution, je deviendrai peut-être un mille pattes. Alors là, les paires de chaussures, il va m'en falloir. Et nous avons goûté à tout et nous ratons le rendez-vous le plus important, c'est-à-dire ce rendez-vous que Dieu nous donne avec le vrai bonheur intérieur, des richesses de Dieu. Oh, il y a un texte que j'aime beaucoup également, c'est dans le psaume 4. Alors, je voudrais vous lire parce que là, vraiment, ça bat tous les records. Quand il est dit ceci, qui nous fera voir le bonheur? Ça, c'est dans le psaume, vous le relirez, mais ce n'est pas ça ce que je veux dire. Le psalmisme dira ceci, tu mets plus de gens, non, parce que nos sources ne sont pas les mêmes. Quand abonde leur froment et leur mou. La nourriture à satiété, la meilleure. Et il dira, c'est pour ça qu'on a parlé de s'endormir, « Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. » Vous ne trouvez pas que c'est quelque chose de formidable? Non, ça n'a pas l'air. Hein? Non, mais je sais que vous êtes pénétrés par ce que vous entendez, ça c'est extraordinaire. Mais gardez cette parole, en tous les cas. Hein? Voilà. Je vais bientôt terminer. Et quand je le dis, je le fais. Ça vous fait rire en plus. Il y a un autre point, c'est la bénédiction de Dieu. Ah oui! Il y en a qui disent « Moi, je suis béni du Seigneur ». D'autres qui disent « Moi, je passe toujours à côté ». Oui, « Seigneur, tu m'oublies. Tu as oublié la distribution, je suis dedans. Je fais partie, je suis marqué. » Voilà. La bénédiction de Dieu. Mais la bénédiction de Dieu a ses dangers pour nous chrétiens. Eh oui! Parce que si nous considérons et que nous suivons, et là je voudrais choquer personne, mais ça n'existe pas au milieu de nous, mais je voudrais choquer personne, nous avons un évangile de la prospérité. Si vous êtes pauvre, c'est de votre faute. Parce qu'avec Dieu, vous ne devriez pas être, vous devriez pas être finalement pauvre. Vous êtes malade, mais c'est de votre faute si vous êtes malade. Parce qu'avec Dieu, on n'est jamais malade. Et puis ceci et cela, mais c'est... Attendez, j'en ajoute pas parce que moi, ça m'énerve. Voilà. Les dangers cachés de la bénédiction d'une fausse doctrine... Et il nous est simplement rappelé qu'il ne faut pas omettre cette parole qui est une salutation importante chez les Juifs, chez les Israélites. Que le Seigneur te bénisse. Qu'est-ce qu'il dit après ? Que le Seigneur te bénisse et il y a après quelques mots. Est-ce que vous avez déjà lu une fois dans votre Bible dans votre vie ? Non, mais je suis un peu caustique. Le Seigneur te bénisse. Et qu'il te garde. Et qu'il te garde dans sa bénédiction et que tu ne fais pas de la bénédiction de Dieu un moyen pour t'égarer. Alors là, je peux vous dire que vous avez des cas de rois d'Israël, rois de Juda, qui ont véritablement été un petit peu, ils ont poussé les choses au maximum. Hein. Saül, Dieu l'avait béni, il l'avait fait roi, il lui avait même donné son esprit, il prophétisait, il lui a donné un royaume. Ozias, le roi Ozias, qui avait une armée considérable, il n'y avait jamais eu autant avec Salomon, autant de richesses à Jérusalem. Il avait battu tous ses ennemis. Et à un moment donné, dans l'abondance et dans la bénédiction, il a complètement... il a viré sa cutie. C'est quelque chose. Mes frères et sœurs, vous êtes bénis du Seigneur, bénissez-le pour être bénis. Mais demandez-lui en même temps que vous ne fassiez pas de sa bénédiction quelque chose qui vous fasse tomber dans l'orgueil et la fierté. Et de dire, moi je suis meilleur que les autres. Regardez, Dieu me bénit. Il ne bénit pas les autres, c'est parce qu'ils ne sont pas forcément... Ils ne sont pas bien. Alors ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. C'est un rendez-vous capital de savoir garder la bénédiction de Dieu dans la modestie. Et ça, c'est le rendez-vous. Parce que notre vie et notre bonheur en dépendent. Et faites attention de dire à Dieu, quand je t'ai visité, aujourd'hui il est trop tard. Ou que vous lui ayez répondu, aujourd'hui, ce sera pour plus tard, naturellement. Parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Conclusion. Parce que tu n'as pas su reconnaître le moment où Dieu t'a visité dans son désir de te sauver. C'est la grâce, mes frères et sœurs. Je ne cesserai de vous le dire. C'est la grâce quand Dieu visite son peuple. Et il est dit dans l'introduction de l'évangile de foi, c'est des belles paroles que nous nous servons à Noël, par exemple. Le soleil levant nous a visités d'en haut. Dixit, Luc. Ou encore, tout simplement... où il est question de cette grâce où, eh bien, Dieu nous donne tout ce dont nous avons besoin et nous l'offre. C'est, on pourrait dire, l'introduction donc à ce bel évangile. Alors pourquoi, une dernière question, pourquoi Jésus a-t-il tant pleuré sur Jérusalem ? Eh bien, il le dira à une femme qui s'appelle la Samaritaine. Si tu connaissais le don de Dieu. Et ce matin, je voudrais quand même rappeler une chose, c'est que tout ce que nous en sommes aujourd'hui, nous connaissons le don de Dieu. Il y a peut-être des amis qui nous rejoignent et qui peut-être pour la première fois sont là et qui se disent « Mais qu'est-ce que c'est tout ça ?» Eh bien, à partir du moment où vous l'avez entendu et que vous ne l'identifiez pas à une religion ou je ne sais quoi, mais que vous l'identifiez aux paroles de Jésus et que c'est Jésus qui dit et qui vous dit « Si tu connaissais le don de Dieu. » Alors moi, je vous encourage à connaître le don de Dieu qui s'appelle Jésus-Christ. La grâce. Tout simplement, si tu connaissais le don de Dieu. Nous avons été à l'école et nous avons appris cette petite fable, la cigale et la fourmi. On l'a en mémoire. Eh oui, la pauvre fourmi qui a bossé. Oui, l'autre qui était sous son parasol, là, en train de... Les pattes croisées, enfin, on a dû en avoir 6 ou 8. Hein. Elle avait du mal à se défaire. Mais toujours est-il qu'il y a quand même un sens dans tout ça. Et nous, les chrétiens, ne soyons pas la cigale. Continuons à véritablement être ce que nous devons être avec le Seigneur, tout simplement. Parce qu'il y a quelque chose qui peut nous atteindre, c'est la vanité et l'inutilité d'un présent qui nous échappe et d'un passé qui ne se reprendra et qui ne se représentera jamais plus. C'est le temps aujourd'hui, nous dit Jésus. Ce jour, hein, pas hier. Maintenant, le Seigneur est bon. Hein. Quand on a raté hier, eh bien, quelquefois, il envoie un autre train. Hein. Et c'est jamais pareil. Mais tout, toujours est-il que ce qui compte, c'est d'arriver au but. Voilà. Donc, nous n'avons pas, comme Israël, nous n'avons pas su comprendre le sérieux et la gravité des circonstances et des événements. Et quelquefois, nous tenons les choses comme sans importance, comme sans apparence essentielle, elles ne l'ont pas. Et nous pouvons passer tout simplement à côté du bonheur. Ah, si au moins aujourd'hui, en ce jour qui t'est donné, maintenant, tu avais compris de quoi dépend ton salut, ton bonheur, ici-bas et de l'autre côté. Si seulement tu avais compris, je paraphrase un texte, hein, si seulement tu avais compris le chemin qui mène à ta paix, mais tout cela est caché à tes yeux parce que tu n'as pas su reconnaître ce qui appartient à ton bonheur, à ton salut, à la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Que Dieu nous bénisse, mes frères et sœurs. Vous ne m'en voulez pas de vous avoir dit tout ça ? Hein ? Voilà. Bon, alors on va simplement courber la tête, on va remercier le Seigneur. Et moi, je voudrais tout simplement prier pour mes frères et mes sœurs qui, quelque part, ont besoin d'un petit coup de pouce de la part du Seigneur pour qu'ils reconnaissent que, eh bien là, il a préparé quelque chose. Parce que Dieu nous visite. Parce que Dieu nous a visités et il nous visitera encore dans sa miséricorde. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce, parce que tu es vivant et tu es fidèle. Et nous voulons en effet, Père éternel, te remercier pour la pertinence de ce message, qui n'est pas quelque chose d'humain, mais qui est véritablement la parole ouverte, le livre ouvert, et qui projette la lumière sur le peuple de Dieu. Seigneur, tu bénis ces paroles parce qu'elles sont esprit, et tu les rends vivantes pour chacun d'entre nous. Pourquoi en effet rester dans notre misère ? Pourquoi rester dans notre marasme ? Pourquoi rester dans la grisaille, médiocre vie, alors que nous avons tout ? Oui, Seigneur, nous voulons croire comme Jésus est venu chercher la fiancée Jérusalem, Israël. Eh bien, nous-mêmes, peut-être notre expérience personnelle, mais aujourd'hui, eh bien, nous sommes fiancés avec Christ, c'est ce que Paul dit. Je vous ai fiancé à un seul époux, Christ. Eh bien, aujourd'hui, Seigneur, ce Christ-là, il est riche. Il est bénissant, il est immensément miséricordieux. Et nous voulons, Seigneur, te remercier, Seigneur, de ce que tu nous as ouvert encore les yeux pour nous montrer que nous n'étions pas des étrangers à la maison, mais que nous sommes dans la maison du Père, dans la maison de notre Sauveur et Seigneur, qui veut que nous soyons dans l'abondance, comme dans le psaume, où tu nous dis tout simplement qu'en effet, tu as ouvert pour nous des chemins nouveaux. Merci Seigneur. Bénis mes frères et sœurs. Bénis les hésitants. Bénis ceux qui sont en doute. Accorde-leur ta grâce. Et qu'ainsi, Seigneur, maintenant, ils puissent dire, eh bien, à partir d'aujourd'hui, Seigneur, ranime en moi la vie de l'Esprit que tu m'as donnée. Merci Jésus. Amen.